Réplique, les enjeux éthiques dans la culture populaire, avec Sandra Logier et Frédéric Lechterflack. Nous vivons dans des sociétés d'abondance. Mais ce privilège tient à un fil. La rareté nous menace et cette menace nous hante. Pénurie de ressources, pénurie d'organes, pression migratoire, catastrophe climatique, pandémie de toutes sortes, les situations se multiplient où il risque de ne pas y en avoir pour tout le monde. Que faire alors ? Lequel, en cas d'urgence, passe avant l'autre? Cette question ne surgit pas seulement dans les livres de philosophie morale, elle est traitée aussi, de plus en plus souvent, par les films grand public et les séries télévisées. La culture populaire aurait-elle quelque chose à nous apprendre? C'est ce que nous verrons avec la philosophe Sandra Logier et avec Frédéric Lechterflack, qui est professeur de littérature comparée et dont le dernier essai s'intitule précisément « Qui vivra, qui mourra, quand on ne peut pas sauver tout le monde ? » Mais commençons par une histoire vraie. Août 2005, la ville de la Nouvelle-Orléans est balayée par le cyclone Katrina. L'hôpital Mémorial est coupé du monde pendant 5 jours. Que s'est-il passé en ce moment crucial ? Frédéric Lechterflack.
Oui, cette histoire vraie de l'hôpital Mémorial à la Nouvelle-Orléans en août 2005, c'est aussi une histoire et un ensemble de récits, de témoignages reconstitués par la journaliste américaine Sherry Fink dans un ouvrage qui s'efforce de suivre au plus près ce qui s'est passé en vrai et ce qui s'est passé dans la tête des médecins, des infirmiers, restés de garde dans cet hôpital où plusieurs centaines de patients, pour la plupart des vieillards ou des patients très gravement atteints, sont restés piégés par le passage du cyclone. Et les jours passent, il n'y a plus d'électricité dans cet hôpital, les groupes électrogènes tombent en panne, les premiers patients meurent suite à l'arrêt évidemment des machines qui les maintenaient en vie. Et on fait avec, face à cette situation d'urgence collective, jusqu'à ce que la pression, la panique, le stress, l'ordre d'évacuation obligatoire de la police suite au chaos dans la ville de la Nouvelle-Orléans oblige les médecins et les infirmiers présents sur place à prendre une décision radicale, celle d'organiser l'évacuation au compte-gouttes par les toits, par des hélicoptères sur le toit, en abandonnant sur place une quinzaine de patients jugés intransportables, parmi lesquels des patients très gravement atteints, mais aussi des obèses qu'on ne pouvait pas porter jusque sur le toit. Et que ces médecins ont décidé d'endormir ou d'euthanasier, c'est tout le débat justement de cette affaire. Et cette affaire, elle pose plusieurs questions. La première, évidemment, qui a été immédiatement prise en charge par la justice et par le procès intenté aux médecins, c'est comment est-ce qu'on juge des transgressions éthiques commises en situation d'urgence collective. Dans le retour à l'ordinaire, quel regard on porte sur ça? Mais bien sûr, Katrina et cette affaire en particulier ont déclenché une question beaucoup plus importante, beaucoup plus cruciale, qui est celle de savoir comment on se prépare à la catastrophe. Est-ce qu'on doit élaborer des protocoles pour situation de catastrophe, qu'il s'agisse d'un accident industriel, d'un attentat de grande ampleur, d'une catastrophe sanitaire, etc. Et ce débat, qui a été mené dans les années qui ont suivi Katrina aux États-Unis, ce débat sur les protocoles, sur la préparation à la catastrophe, il est entré en interférence avec tout un secteur de la production fictionnelle contemporaine qui s'est emparé de ces sujets sous la forme de films post-apocalyptiques, de films de pandémie, de films catastrophes, et qui, à son tour, a posé les questions éthiques qui étaient centrales. Et les deux secteurs, le secteur de la préparation à la catastrophe et la production fictionnelle, sont entrés en interférence et continuent à entrer en interférence sur cette question des enjeux éthiques face aux situations d'urgence collective.
Et restons-en un instant, cependant, à cette histoire du mémorial. Les médecins ont-ils fait l'objet de poursuites? Est-ce que la famille des malades endormis a intenté une action contre eux? Que leur est-il arrivé?
Oui, bien sûr, cette affaire a fait l'objet d'un procès. Un grand jury citoyen a été soumis évidemment à ce dilemme. Fallait-il condamner ces médecins qui ont fait au mieux hein, qui ont pris, d'après eux, les décisions les plus humaines qui s'imposaient dans cette situation où on ne pouvait laisser personne derrière vivant dans la souffrance et dans la solitude. Finalement, les médecins ont été acquittés, mais le sentiment qui a demeuré, c'est celui d'une inadéquation de la justice à entrer dans ce genre d'affaires. Et c'est aussi la raison pour laquelle la journaliste Sherry Fink a rouvert ce dossier et fait entrer dans la discussion non pas simplement le débat sur les faits, sur que s'est-il passé, mais aussi l'interrogation sur la bulle psychologique, la bulle imaginaire qui est entrée en interférence avec la prise de décision pratique et qui a justifié que sur la scène de l'imagination en panique, de telles décisions puissent être prises.
Pourquoi vous parlez de bulle imaginaire ?
Parce que le sentiment qui a été celui des médecins à ce moment-là, c'est qu'il n'y avait rien d'autre à faire, que le plus humain à faire était d'euthanasier ces gens, même si ce terme d'euthanasie, évidemment, n'est jamais employé pour des raisons évidentes, judiciaires. Et donc, c'est les interférences psychologiques avec un jugement objectif sur la situation ont joué un rôle considérable dans la prise de décision.
Sandra Logier.
En effet, Katrina et cette catastrophe précise a été une ressource, une source de très grande créativité. On pense à la série télévisée Trémée, hein, de celle de David Simon, qui est aussi consacrée à la suite.
Est-ce qu'il est question d'ailleurs de l'hôpital Mémorial dans la série Trémée ? Non.
Non, mais je pense qu'il est question aussi justement de ceux qui ont été laissés sans avoir été euthanasiés, hein, mais dont on ne s'est pas préoccupé. Cette catastrophe-là a été vraiment peut-être emblématique d'une créativité et de réflexion qui ont été engagées sur ces situations extrêmes, hein, des situations où, en effet, l'être humain se retrouve complètement dépouillé, hein, mis à nu. Et cette question de la vulnérabilité qui est peut-être vraiment au cœur de beaucoup des réflexions éthiques aujourd'hui, et de la capacité ou non que l'on a de prendre soin, de prendre en charge les personnes. Donc c'est vraiment une question qui, en effet, et c'est quelque chose que Frédéric Leichterflack montre de façon vraiment remarquable, hein, qui pose cette question du tri, du choix des personnes, mais aussi de la question plus générale, hein, des priorités qui sont les nôtres, hein, donc des choix qui sont faits aussi à chaque instant. Et par ailleurs, c'est vrai que ces situations de catastrophe, comme vous le disiez, Frédéric, sont en effet devenues extrêmement centrales, hein, dans la culture populaire, les films, donc les films à grand public. Beaucoup de séries télévisées, donc situation de catastrophe ou société ou monde post-apocalyptique aussi d'après la catastrophe, et on pourrait en effet se demander donc comment cette situation est devenue extrêmement emblématique d'enjeux moraux qui ne peuvent être diffusés que de cette façon, en fait, par cette description de situation extrême où, en effet, on a des choix et des décisions donc extrêmement difficiles à prendre, mais où aussi donc on se retrouve dans un monde où il faut aussi réinventer tout un système de valeurs.
Oui, mais dans le cas précis du Mémorial, les médecins, me semble-t-il, et c'est peut-être d'ailleurs la raison pour laquelle il n'y a pas eu de série télévisée sur ce thème précis, ont fait exactement ce qu'ils avaient à faire. C'est-à-dire, ils ont résolu, dans le seul sens possible, le dilemme moral qui était le leur, non, Frédéric Leichterflack ?
Oui, en accordant une très grande importance aux critères de l'efficience ou de l'efficacité. Quand on ne peut pas sauver tout le monde, est-ce que des critères d'efficience médicale passent avant ? L'avis défendu par le principal médecin inculpé dans cette affaire consistait à soutenir qu'il fallait évacuer les plus mobiles d'abord, non pas les plus gravement atteints, non pas les plus gravement blessés, mais au contraire, en situation de catastrophe, les plus mobiles, les moins gravement atteints d'abord, pour des raisons d'efficacité. Mais je crois que la question qui est derrière tout ça, c'est celle des critères et des limites des critères d'efficacité médicale. Est-ce que sur des enjeux comme ceux d'une catastrophe ou d'une urgence collective, est-ce que quand on a atteint les limites de pertinence des critères médicaux, est-ce que d'autres critères éthiques doivent prendre le relais et est-ce que c'est le rôle des citoyens de la démocratie, de s'emparer du débat sur les critères. Et c'est là qu'on retrouve effectivement les fictions populaires, jusque dans leurs formes les plus caricaturales ou les plus extrêmes. Si vous prenez un film comme 2012, hein, je prends d'emblée l'exemple.
Pas vu celui-là.
C'est pas grave, Alain, vous n'avez rien manqué. Mais 2012, qui est passionnant dans ce film, où c'est une accumulation de catastrophes, de cataclysmes apocalyptiques. Bref, la Terre s'écroule sous nos pieds littéralement, sauf qu'il y a, à la fin de ce film, des arches, un peu, c'est une réécriture de Noé, des arches dans lesquelles un certain nombre de personnes pourront s'embarquer et sauver leur vie. Eh bien, un certain nombre de critères sont explorés par ce film. Dans ces arches, montrons les VIP, les personnalités les plus importantes, et c'est les critères de l'utilité sociale, qu'on connaît bien et qui posent toutes sortes de questions. Montrons aussi dans ces arches des riches qui ont payé leur place. Et c'est la loi du marché, à ce moment-là, qui s'empare évidemment de cette résolution. Les riches, non pas parce que c'est des privilégiés, mais aussi parce qu'ils ont, par l'argent de leurs billets, permis le financement de ces arches. C'est presque du financement participatif. Et puis, en dehors de ce film, la campagne de lancement de ce film, et c'est pour ça que c'est très intéressant, qui était du marketing viral, a consisté, sous la forme d'un faux site web, à offrir à la loterie, des tickets d'accès à ces arches à des internautes lambda. Autrement dit, on trouve un troisième mode de résolution de cette question des critères, qui est celui du tirage au sort, le plus démocratique qui soit. Évidemment, la question reste posée. En tout cas, ce débat sur les critères, qui n'est pas résolu, qui est, en tension permanente aujourd'hui, il est largement pris en charge par ces fictions post-apocalyptiques.
Vous auriez d'autres fictions qui témoignent de la même réflexion et de la même inquiétude, Sandra Laugier ?
Bien entendu, cette question, d'abord, du triage, hein, n'est pas seulement donc dans l'exemple hein, que vous racontez, même si elle ne se trouve pas entraînée, je crois qu'elle est vraiment au cœur, par exemple, de beaucoup de séries médicales. Si vous connaissez la plus classique, peut-être, d'entre elles, Urgence, il y a très souvent des situations. C'est la plus...
La série paradigmatique.
Très belle série, par ailleurs, qui visait justement aussi l'information, l'éducation du public. Eh bien, dans plusieurs épisodes un peu cultes, emblématiques, on a toute une masse donc de blessés, de victimes qui arrivent à l'hôpital, à Cook County, et effectivement, il faut trier. Donc cette démarche-là, elle est à petite échelle, vraiment présentée dans cette série, et de toute façon, dans beaucoup de situations aussi plus individuelles, on a cette question de choisir entre deux patients parce que on n'a pas suffisamment de personnel, etc. Donc c'est extrêmement présent. Par ailleurs, il y a vraiment aussi cette question de la situation, comme vous le disiez, cette situation de catastrophe qui va être peut-être une façon aussi de montrer la perte de tout ce qui est la vie ordinaire, normale, en fait. C'est-à-dire qu'au début d'un film catastrophe, vous avez toujours, finalement, une sorte de présentation, d'ailleurs heureusement, parce que sinon on ne saurait pas ce que c'est, donc de présentation de ce que c'est que la vie quotidienne. On voit des gens
se promener,
barbecue, vélo, école, Donc c'est vraiment intéressant de voir quelles sont finalement ces grandes catégories de la vie ordinaire qui vont être balayées. Oui. La façon dont la catastrophe est aussi une mise en scène de ce que c'est que nous avons comme vie normale, ce qui est quelque chose qui est peut-être assez insaisissable. Par ailleurs, dans ces films catastrophes, on a toujours, en effet, des questions de tri, de préférence, mais qui vont s'organiser. Alors, c'est caricatural dans 2012, mais on a aussi ça dans Le Jour d'après, on a aussi ça récemment dans Saint-Andréas, enfin, dans tous les films catastrophes, on a toujours une sorte de noyau familial qui va se constituer ou se reconstituer. C'est-à-dire que dans tous les films catastrophes, c'est un détail qui a son importance malgré tout, on a toujours en fait un couple qui est en train de se séparer au début du film et qui va se réconcilier à la fin, et je vous défie de trouver un contre-exemple. Ça a l'air d'être un détail, mais en réalité, ça inscrit en fait les films catastrophes dans une grande tradition aussi morale des films de séparation, réconciliation.
Ah oui, film que vous appréciez particulièrement, comédie. En disciple de Stanley Cavell, voilà, puisque Stanley Cavell a étudié les comédies du remariage, voilà. Qui, en effet,
alors, y a
ont
le
illustré
film
la production hollywoodienne.
Le film catastrophe de remariage est un genre
oui.
aussi.
Vous dites aussi, Sandra Logier, que ces films ont un rôle formateur, oui. quasi éducatif. En quoi ces remariages catastrophes, si je puisse dire, peuvent-ils servir à former la conscience du téléspectateur ? Parce que sinon, on pourrait dire, si vous voulez, finalement, ce sont des films kitsch, les familles sont sauves après une catastrophe, et tout ça consiste à plaquer sur une réalité humaine infiniment douloureuse des catégories consolantes. Alors pourquoi diriez-vous que c'est formateur, vous, Sandra Logier ?
Je suis tout à fait d'accord, par ailleurs, avec votre dernière description. Hein. C'est vrai que ce scénario... Hein, cette forme, hein, on peut parler vraiment de forme, de structure du remariage, et aussi une forme de scénario minimal hein, qu'on va trouver dans beaucoup de genres, hein, donc qui va s'appliquer particulièrement au genre catastrophe, mais il n'a pas, à mon avis, pour viser de donner à la catastrophe et à la description de la catastrophe une dimension formatrice et éducative. Hein. Il témoigne, par sa présence dans ce genre, de l'importance hein, de cette, de cette structure, de cette hypothèse du remariage, qui est donc la capacité à surmonter, en fait, des ruptures extrêmement violentes et donc à accepter donc des formes de vie quotidienne et à donc se retrouver dans le cas, par exemple, de 2012, hein, qui est assez caricatural.
Ah, c'est ce qui se passe en 2012.
Oui, dans 2012. Alors, en général aussi, il y a une caractéristique de ces catastrophes de remariage. Il y a toujours, finalement, un intrus, en général le beau-père ou le nouvel amant de la femme qui arrive et qui va être rapidement éliminé de façon à ce que la famille se recompose comme à l'origine. Et donc,
oui, c'est ça.
Voilà.
Donc, pas au sens de famille recomposée.
Au sens de la famille recomposée. Et donc, il y a effectivement ce repli hein, sur ce qu'on va choisir hein, de préserver et de sauver, et qui sont aussi choisis par le spectateur hein, qui va effectivement, dans sa vision, s'attacher à un petit groupe de personnages, à cette famille, à deux ou trois autres personnes qui vont être recrutées auxquelles... Donc, il va s'attacher, dont il va se soucier et qui vont, en effet, de façon extrêmement sélective aussi. Donc, le choix, il se fait aussi du côté du spectateur dans chaque fois, dans chaque vision du film. Hein. C'est pas seulement donc la narration. Donc, il y a cet attachement à ces personnages qui va, en fait, vraiment aussi motiver la conclusion du film.
Oui, mais alors, pour essayer d'explorer ce que, par-delà les catastrophes de remariage, ces films ou ces séries qui explorent des situations limites peuvent avoir de formateur, vous parlez, à un moment donné dans votre livre, Frédéric Lechter-Flack, d'un des sujets d'intérêt de la philosophie morale, la lifeboat ethics, l'éthique du canot de sauvetage. Or, lifeboat, vous le dites aussi, c'est un film de Hitchcock, réalisé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, cette question du canot de sauvetage, elle traverse la production cinématographique récente. Alors, quel lien peut-on faire entre la philosophie morale et les œuvres fictionnelles? Et en quoi peut-on sortir de tout cela transformé, Frédéric Lechter-Flack?
Oui, la situation d'éthique des naufrages, c'est effectivement un cas privilégié par la philosophie analytique en particulier, qui cherche à expérimenter toujours plus loin les limites des situations extrêmes et de ce qu'elles nous font. Quand la fiction s'en empare, c'est aussi pour explorer cette brutalisation des relations humaines qu'on trouve dans la situation d'un canot de sauvetage sur le point d'être submergé et dont il faut débarrasser une partie de la cargaison. Et c'est une situation évidemment épouvantable, mais on peut la traiter de différentes manières. On n'est pas obligé de céder à cette brutalisation. Le film d'Hitchcock, Lifeboat, montre au contraire un groupe d'Américains qui prennent la décision d'accueillir à bord un naufragé dont ils ignorent tout et qui se révélera être l'officier nazi qui a coulé leur bateau. Et l'accueil à bord, avant de poser des questions, on accueille, on ne trie pas et on verra ce qui se passe. Et évidemment, l'histoire leur donne raison.
Mais cette... Pourquoi l'histoire leur donne-t-elle raison ? Parce qu'en l'accueillant, ils se mettent eux-mêmes en péril.
En l'accueillant, ils refont groupe. Hein, ils refont l'union. Et donc,
ils échappent à la...
Ils ne respectent pas les règles du jeu.
Pas de spoiler.
Il capte toutes les ressources à son seul profit. Voilà. Et en ce sens, il ne joue pas le jeu. Et c'est pour ça qu'il mérite la mort, finalement. Mais ce qui m'intéresse, c'est que dans ces situations de brutalisation, la fiction sert à la fois comme une caisse de résonance de nos inquiétudes, de nos angoisses, que tout lâche, que toutes les institutions lâchent, que tous les liens humains lâchent et nous échappent, et en même temps comme une boîte à outils d'expérimentation morale. Et de ce point de vue-là, nous évoquions tout à l'heure la solidité du lien familial comme dernier ressort quand tout le reste part à volo, part à la dérive, quand même les institutions, le gouvernement qui serait censé nous protéger nous lâche, eh bien il resterait ce noyau familial. Eh bien en réalité, il y a tout un ensemble de fictions aujourd'hui qui éprouvent jusqu'à ce noyau familial, et ce sont les fictions de contagion, de pandémie, ou les fictions de zombies, ce sont juste des variantes. Et de ce point de vue-là, elles entrent en résonance avec nos inquiétudes contemporaines sur les situations de pandémie, qui sont des situations dans lesquelles même le rapport de soins ou de sollicitude, même le lien humain le plus fondamental qui est celui à l'intérieur de la famille, nous fait défaut. Et de ce point de vue-là, le risque de contagion des situations de pandémie, que ce soit à l'écran ou que ce soit dans la réalité, c'est celui où tous nos repères éthiques nous lâchent, puisque celui dont on devrait prendre soin et celui qui nous menace le plus, le contaminé, est d'abord un contaminant potentiel dont il faut se défier. Et cette interrogation sur ce que nous fait cette brutalisation des rapports humains, il nous reste encore à la porter dans la réalité.
Oui, mais s'agit-il vraiment d'une interrogation, c'est une question à vous deux, dans les films, ou plutôt d'une sorte de divertissement, le divertissement de l'horreur, c'est-à-dire on éprouve un frisson terrible devant ce que l'on voit et qui est c'est l'amour de la peur, si vous voulez, une peur que l'on ressent. Et mais en quoi peut-on sortir transformé de ce genre d'expérience, Sandra Laugier?
D'abord, je crois qu'on sort transformé de toute expérience, y compris, en effet, celle d'émotions créées par des artifices scénariques. Et pour ma part, je méfie de tout discours qui a tendance vraiment à dévaloriser ce type de production culturelle par rapport à des œuvres qui seraient plus nobles, hein, qui seraient élevées. Je crois que l'intérêt d'abord de la littérature, hein, bien sûr, mais aussi du cinéma, et aussi du cinéma populaire et aussi des séries télévisées, c'est justement de produire en fait des ressources morales qui sont extrêmement différentes, hein, et peut-être même orthogonales à elles, donc différentes de la philosophie morale, analytique, telle qu'elle se présente aujourd'hui, avec justement des situations abstraites qu'on va présenter à des personnes. Donc il y a l'histoire du canot, il y a l'histoire du tramway.
Ah oui, rappelez-la, c'est quoi cette histoire du tramway?
Donc si par exemple il y a un tramway qui peut écraser tout un groupe de personnes, ou alors une seule personne, si vous êtes maître en fait de la trajectoire de ce tramway, vous allez modifier sa trajectoire de façon à diminuer le nombre potentiel des victimes.
C'est-à-dire que oui, s'il continue tout droit, il écrase voilà. 6 personnes. Et, il a, et, sinon, et on peut simplement modifier oui. sa trajectoire. On peut pas l'arrêter, c'est ça
non,
l'idée.
Non. Si on pouvait l'arrêter,
il y aurait pas de problème. Donc on ne peut que modifier sa trajectoire. Alors que faire?
Voilà.
Et alors comment réalité, tranche? Comment la philosophie morale tranche-t-elle? La philosophie analytique qui a l'art de poser des questions étranges.
Ah, je pense qu'elle tranche de différentes façons, en examinant différentes hypothèses, différentes priorités. Et je crois que dans une approche morale telle que celle que nous défendons, de toute façon, cette situation n'existe pas. C'est-à-dire qu'une situation abstraite, on ne sait pas qui sont ces personnes, on ne sait pas qui est la personne préposée à la trajectoire du tramway. De toute façon, une situation morale exige vraiment un contexte, hein, toute une richesse de situations, comme celle que vous décriviez pour l'hôpital mémorial,
ça, c'est décisions. C'est la supériorité de la fiction sur la philosophie analytique, vous dites.
Effectivement, c'est même pas seulement une supériorité, c'est en fait qu'elle permet réellement de poser des questions morales. Et c'est un élément très important. Et du coup, on a vraiment des questions morales qui se posent de façon très très différente, hein, que ce soit en littérature et dans les séries télé, et en particulier une attention aux situations, à l'épaisseur aussi morale, aux façons d'être des personnages, et de toute façon aussi personne. Se mettrait à essayer de réfléchir froidement et de décider est-ce qu'il faut mieux, est-ce que je vais plutôt sacrifier cette personne. N'importe quel humain serait totalement en panique ou déciderait de ne rien faire, hein, probablement. Ce que je veux dire, c'est que si l'idée qu'il faille voir l'éthique sous cette forme justement du choix de sacrifier d'autres personnes est quelque chose qui est extrêmement pervers, hein, définir l'éthique en fonction de cela. Hein. Considérer que c'est ça, les grands moments de l'éthique.
Vous dites que c'est pervers, mais c'est vrai, c'est précisément ce que fait justement le cinéma dont vous parlez, qui s'enchante de ce genre de situation.
Tout à fait, mais...
Ce cinéma est-il formateur ou est-il pervers?
Ce cinéma est formateur parce que, évidemment, il y a dans la vie aussi des grands moments de décision, mais ils sont contextualisés. Et par ailleurs, on ne décide pas, dans ces fictions, on ne va pas décider soi-même de sacrifier une personne à partir d'un certain calcul. Les motivations viendront d'ailleurs. Regardez à la fin de Titanic, par exemple, il n'y a pas à un certain moment la décision donc de l'héroïne de Kate Winslet de dire qu'elle va sacrifier Leonardo DiCaprio. D'ailleurs, qui pourrait faire ça pour survivre, c'est lui qui décide.
Oui, alors évidemment, ce sacrifice épargne la résolution difficile. Mais justement, ce qui est quand même intéressant, c'est que on a assisté ces dernières décennies à une grande réhabilitation philosophique de la figure de l'autre dans le couple du même et de l'autre. C'est l'autre qui depuis un certain temps est réévalué. Mais en même temps, on se rend bien compte que ça ne suffit pas, parce que l'autre, précisément, n'est pas une catégorie, c'est une pluralité humaine. Et alors, d'où la question que je posais en début, très souvent on se demande, qui passe avant l'autre? Tout le temps. Je connais un médecin, vous êtes impatient, vous voulez obtenir un rendez-vous rapidement, vous vous servez de vos relations éventuelles pour l'avoir, et un médecin que je connais, qui travaille dans un hôpital, résout la question par cette formule absolument délicieuse. Tout pour les amis, pour les autres, la justice. Voilà. Et bien sûr qu'il reçoit tout le monde dans ses consultations. Mais voilà, cette question, elle se pose sans cesse et elle nous rappelle justement qu'on n'en a pas fini avec la question morale le jour où on dit « vive l'autre » plutôt que « vive le même », puisque on n'a pas besoin de vivre des catastrophes pour être confronté à la question du tri, de la priorité. Frédéric Lichterflack.
Oui, et on retrouve d'ailleurs le déplacement du motif du choix tragique entre sa propre vie et la vie d'autrui, qui se déplace vers un choix entre la vie d'un tel ou la vie de tel autre. Et là, on retrouve évidemment un problème qui est tout à fait nouveau et qui ouvre un nouveau régime du mal. C'est-à-dire que la question de choisir entre sa propre vie et la vie d'autrui, c'est une question qui est à peu près cadrée, à peu près résolue. Elle suppose un peu de courage. C'est la question du sacrifice. Et il y a toute une tradition dans l'histoire de la littérature littérature qu'il a prend en charge cette question, avec ses faillites et ses réussites. La question de savoir lequel de mes deux amis doit avoir priorité, là c'est une question qui compromet, c'est une question qui souille, et c'est une question qui laisse le survivant ou celui qui a fait le choix dans une situation de honte et de compromission morale avec laquelle il doit vivre. Et je trouve très intéressant de ce point de vue-là le déplacement de la figure du survivant des situations extrêmes à travers cette question du choix tragique assumé qu'on trouve depuis le choix de Sophie de William Salron, cette mère à qui un médecin nazi de fiction impose de choisir entre ses deux jeunes enfants lequel sera sauvé et lequel sera immédiatement mis à mort, et qui choisit, parce que sinon les deux seront immédiatement mis à mort. Et on retrouve cette question déplacée jusque dans des fictions très contemporaines et des séries très contemporaines où un personnage doit décider entre deux victimes potentielles laquelle il sauvera. Et il n'y a pas de bon choix, évidemment. C'est un choix entre le mal et le mal. Est-ce qu'il y a à ce moment-là destruction de la personnalité morale de celui qui choisit? Ou est-ce qu'il y a encore une grandeur morale dans ce genre d'arbitrage? C'est aussi une question que la fiction nous pose.
D'ailleurs, vous citez un autre exemple que celui du choix de Sophie de Stalin. Je crois que ça, c'est un fait vrai, encore une fois, commenté notamment par Hannah Arendt et par Albert Camus dans une conférence que celui-ci a prononcée à New York, à l'invitation de l'Université Columbia. Son sujet, 1946, c'est la crise de l'homme. Il refuse d'en parler en termes théoriques. Et pour illustrer son thème, il cite l'anecdote suivante. En Grèce, après une action des forces de la résistance, un officier allemand prépare l'exécution de trois frères qui ont été pris comme otages. Leur vieille mère implore pitié et il consent à en épargner un, mais à condition que ce soit elle qui le choisisse. Comme la mère ne se décide pas, les soldats pointent leurs fusils. Au dernier moment, la mère choisit le fils aîné parce qu'il a la charge d'une famille. Mais ce faisant, elle a condamné d'un même geste ses deux autres fils. Tel était le souhait de l'Allemand. Le souhait dont... une question d'ailleurs qu'aborde aussi Primo Levi, l'ordre infernal du nazisme consistant à dégrader les victimes au point de les rendre semblables à lui, en tout cas parce qu'il a besoin de complicités grandes et petites, c'est-à-dire les tuer et en même temps, ou alors en tout cas les priver d'innocence, quoi, comme châtiment ultime.
Oui, la question de ce que cela fait à un homme que d'être placé dans une situation inhumaine, dans une situation où il ne pourra plus se comporter en homme, c'est, je crois, un des héritages les plus cruciaux que nous a légué l'expérience du nazisme et dont nous ne savons pas quoi faire jusqu'à aujourd'hui. Et c'est peut-être pour ça que cette question du traumatisme moral s'est déplacée dans la fiction. Parce que nous avons tiré bien des leçons de l'expérience du nazisme ou de l'expérience d'Hiroshima ou de l'expérience des camps de concentration. Mais cette méditation sur ce traumatisme moral et ces situations dans lesquelles il n'y a pas de bon choix, il n'y a pas d'échappatoire, qu'est-ce que cela fait à l'homme, au détenu des camps, que d'être pris dans un système où il sait qu'il ne pourra survivre qu'au détriment des autres? Cette question-là, nous ne l'avons pas résolue, si tant est qu'elle puisse se résoudre, et elle se déplace, elle se reporte sous des formes dégradées dans des fictions contemporaines. On peut lire à travers les livres et les films pour adolescents, d'ailleurs Hunger Games, l'histoire de 24 adolescents dans une arène condamnés à s'entretuer sous le regard du monde jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un. On peut lire le déplacement de ce thème et de sa non-résolution. La question évidemment que ça pose, et je rejoins le problème que vous souleviez tout à l'heure sur ce que ça nous fait, qu'est-ce que signifie cette jouissance de l'horreur morale. Est-ce qu'on est transformé en bien ou en mal de cette expérience? Est-ce que ça nous souille? Est-ce que ça nous compromet, nous aussi, dans ce choix impossible? Ou est-ce que ça fonctionne comme une espèce de catharsis qui nous protège de la nécessité d'affronter ces questions dans la réalité? Et là, on rejoint une très vieille question qui s'est posée à la littérature pendant très longtemps, qui est celle de la catharsis. Qu'est-ce que nous fait la mise en scène, le déplacement dans la fiction de ces questions éprouvantes, terribles, que la réalité nous pose parfois et dont nous aimerions bien nous débarrasser?
Cette question, c'est en effet celle de la catharsis, hein, probablement, mais aussi je crois qu'il y a cette capacité qu'a le spectateur, maintenant, la spectatrice, de revenir sur sa propre expérience et de comprendre en fait ce qui se passe en lui et de voir par exemple comment sa propre sensibilité va évoluer dans la vision d'une série télévisée. On parlait de d'exemples un petit peu populaires, triviaux. Il y a une série qui est assez populaire, qui s'appelle The Walking Dead, puisque Frédéric parlait des fictions de zombies. C'est une fiction qui est à la fois post-apocalyptique, zombie, et pleine aussi de choix, de dilemmes assez terribles, qui met en scène un groupe de personnes avec un leader dans un monde où il ne reste qu'une toute petite poignée d'humains qui est envahie par les zombies. Bon, on dit comme ça, ça paraît pas extrêmement sérieux. En réalité, c'est une série qui pose des questions éthiques, non seulement dans chaque épisode, mais de façon progressive, puisque on voit en fait les personnages s'endurcir progressivement. Hein. Dans la première saison, ils ne supporteraient pas de tuer un humain, donc il ne tuerait que des zombies. Et donc, au fil des saisons, la catégorie de ceux qu'on doit sacrifier dans telle ou telle situation urgente va se modifier. Et il est très intéressant, à mon avis, au lieu de voir ça comme une espèce de divertissement démagogique, de comprendre comment... Là, chacun est capable de voir en fait sa propre évolution. D'ailleurs, c'est une série qui vraiment permet cette espèce de retour sur soi et de compréhension de soi. Et on le voit dans le fait que les producteurs ont récemment fait une nouvelle série qui s'appelle Fear the Walking Dead, qui se place en fait avant donc la catastrophe et qui va montrer comment, en fait, ce système de valeurs ordinaires va s'effondrer et qui fait comprendre aussi aux spectateurs qui allaient jusqu'au bout de la destruction des valeurs en suivant l'ensemble des saisons de la première série, finalement, ce à quoi aussi il a renoncé. Donc, je dois dire que il y a un potentiel de réflexion dans ces séries qui est certainement sous-estimé, hein. J'ai l'impression qu'il ne faut pas aussi, il ne faut pas non plus se focaliser sur ces questions de choix, de dilemmes. Évidemment, ce sont des exemples très forts, très spectaculaires, et bien sûr qui sont frappants. Mais la vie morale, et c'est ça aussi que nous apprennent la littérature, le cinéma, est faite de tout autre chose aussi que ces choix et ces dilemmes.
Oui, mais alors justement, nous restons hantés par le souvenir, le traumatisme du nazisme. Vous en parlez dans votre livre, Frédéric Lechter-Flack, ce moment où justement des sélections ultimes. Et ce moment où les victimes perdaient même leur innocence puisqu'ils n'avaient de choix qu'entre le mal et le mal. Et certaines séries explorent des situations extrêmes de ce type. Mais précisément, ceux qui ont essayé de réfléchir à l'épreuve nazie, que nous disent-ils ? Vous citez Günther Anders, un commandement de Günther Anders. Empêche la naissance de situations où il n'est plus possible d'être moral et qui, pour cette raison, se soustrait à la compétence de tout jugement moral. On trouve une réflexion du même type chez Emmanuel Lévinas. Que l'on puisse créer une âme d'esclave n'est pas seulement la plus poignante expérience de l'homme moderne, mais peut-être la réfutation même de la liberté humaine. La liberté humaine est essentiellement non-héroïque. Que l'on puisse, par l'intimidation, par la torture, briser la résistance absolue de la liberté jusque dans sa liberté de penser, etc., dit-il, c'est ce que le nazisme révèle de l'homme, cette fragilité. Mais ce qui reste cependant libre, ajoute-t-il, c'est le pouvoir de prévoir sa propre déchéance et de se prémunir contre elle. La liberté consiste à instituer hors de soi un ordre de raison, à confier le raisonnable à l'écrit, à recourir à une institution. Ça va dans le même sens que Günther Anders. Voilà la leçon éthique que l'on peut tirer du nazisme. Mais c'est pas du tout ce que font les séries, Hunger Games, etc. Au contraire, ils explorent à l'infini ce genre de situation. On en éprouve un plaisir étrange, une émotion forte, mais ça ne nous apprend rien précisément sur la morale ordinaire. Donc, voilà, une culture populaire dont vous dites, Sandra Laugier, que précisément, elle a une vertu formatrice, alors même qu'elle nous éloigne de notre propre situation, à l'inverse de ce que fait souvent le grand art, parce que le grand art, notamment l'art du roman, art de la prose, comme dit Kundera, c'est l'exploration des situations ordinaires. Si on veut savoir quelque chose sur le couple, par exemple, eh ben peut-être vaut-il mieux voir Scène de la vie conjugale de Bergman plutôt que des catastrophes du remariage, Sandra Laugier.
En réalité, en parlant des catastrophes du remariage et de toutes les séries, ce genre post-apocalyptique que nous avons décrit, nous n'abordons qu'une microscopique partie du domaine des séries télévisées, de la culture populaire, qui est extrêmement riche. Et donc, nous nous sommes orientés vers ce genre-là, donc, puisque, en effet, nous partons de grandes questions éthiques, du nazisme, du choix de l'humain, de la vulnérabilité. Et c'est évidemment très fondamental. Et donc, à côté de cela, c'est très difficile de montrer la valeur de questions éthiques plus ordinaires. Ça paraît très peu de choses, exactement comme après les séries télévisées vont paraître peu de choses à côté donc de la grande littérature, du grand art,
mais
de,
ou de Primo Levi. Je cite Scène de la vie conjugale parce que c'est une sorte de série télévisée, si vous voulez.
Hein et après tout, en regardant une série... comme The Affair, qui est une série de très, très grande qualité, où on retrouve des acteurs qui viennent de The Wire, d'Urgence, et qui traitent aussi de la vie conjugale et de l'adultère. C'est une œuvre qui a une vraie ambition, selon moi. Et je crois que les séries télévisées, très souvent, pas seulement celles qu'on a mentionnées, qui ont en effet un aspect... caricatural et parfois manipulatoire, les séries télévisées constituent un corpus extrêmement large qui est entièrement tissé de situations morales et de contextes moraux. Et dire que le grand art aborde plus aisément la vie ordinaire que cette culture populaire, je pense que ça n'est pas certain. La culture populaire, les séries télévisées, le cinéma populaire est un des rares domaines qui a gardé un contact avec un très large public et qui peut se permettre justement d'avoir une influence sur le public. Et les mêmes qui méprisent maintenant les séries télévisées ou disent c'est juste du divertissement, disaient il y a quelques décennies que le cinéma était aussi inférieur aux grands arts. Je crois que la question, de toute façon, c'est celle de cette hiérarchie implicite que nous faisons entre des arts ou des productions culturelles, si on ne veut pas parler d'art.
Il serait absurde, en effet, de mépriser les séries télévisées en général. Simplement, je m'interroge sur la portée à la fois esthétique et morale de séries télévisées qui nous plongent dans des situations extrêmes dont, en fait, aucune leçon ne peut être tirée et qui, à cet égard, me semble-t-il, je pense notamment à Hunger Games, c'est pas une série, mais c'est un film 1, 2, 3, etc., nous font perdre notre temps. Voilà la question que je me pose. Mais je ne voudrais pas condamner les séries télévisées en général. Vous avez cité The Affair. J'ai vu The Wire aussi, que j'ai beaucoup aimé. Et il est vrai que les séries télévisées réintroduisent au cinéma une dimension que certains films avaient complètement perdu, certains films hollywoodiens avaient complètement perdu, la lenteur. Et avec la lenteur, justement, la possibilité d'explorer les quatre consciences.
Et l'attention à des situations particulières, voilà, aux façons d'être des personnes qui sont un élément très important. Par ailleurs, les séries ou les films catastrophes qui peuvent vous paraître caricaturaux et ne pas constituer une véritable une véritable formation, dès lors donc qu'ils sont reçus par un public large et qu'ils ont en effet cette dimension de donc de cette ambition aussi de poser des questions et de formation morale, ils ont cette force-là, cette dimension-là, et je crois qu'il faut pas, il ne faut pas la négliger.
Je crois qu'il est tout à fait exact de critiquer un élément de complaisance et d'égarement dans le sensationnalisme toujours croissant des productions fictionnelles contemporaines qui explorent les mille variations des choix tragiques et approfondissent dans des situations toujours plus extrêmes ces impasses. Il y a un élément de complaisance et d'égarement parce que finalement la seule conclusion qu'on peut en tirer, c'est qu'il faut cultiver toujours davantage des compétences pour la survie qui s'épargne la honte morale que décrivait Primo Levi et qui était le dernier refuge de l'humanité dans ces situations extrêmes. Donc cet élément d'égarement, cette manière de poser le problème exprès mal pour nous entraîner dans des impasses, je crois qu'il faut effectivement rappeler cette critique. Cependant, je crois que dans la consigne que vous rappeliez de Gunther Anders, prévenir la naissance de situations où il n'est plus possible d'agir de manière humaine, il y a un élément de complexité que recueillent ces variations fictionnelles, c'est le fait que ces situations ne sont pas toujours créées par de la malveillance humaine, par des intentions mauvaises, qu'elles se produisent aussi par des concours de circonstances dans lesquelles nous sommes pris. Et de ce point de vue-là, indépendamment, je dirais, de la stérilité éthique des réponses que nous proposent ces séries, il y a un élément qui est absolument crucial et qui est en interaction avec la manière de politiquement penser ces sujets, c'est que ça permet de mesurer ce qui paraît acceptable au grand public. C'est un élément qui permet de prendre le pouls des perceptions du grand public sur ces enjeux éthiques. Qu'est-ce qui est regardable? Qu'est-ce qui est acceptable de voir à l'écran? Et qu'est-ce qui choque le public? Eh bien, ça permet de prendre le pouls de ces perceptions. On n'a pas aujourd'hui des sondages qui permettent de juger de ce que le grand public va trouver juste de faire en situation de pénurie. Eh bien, ces fictions prennent le relais d'une certaine manière et entrent du coup dans le débat politique sur la manière dont on perçoit les enjeux éthiques des situations de pénurie.
Alors, prenons un film. J'en ai vu un extrait. J'ai pas vu tout entier du premier, premier épisode, Hunger Games 1. Mmh. Vous allez nous rappeler l'intrigue, Frédéric Lechterflack. Mmh. Bon, j'ai trouvé ça atroce. Et je me suis dit, mais si le public adolescent s'intéresse à ce genre de situation extrême, un jeu organisé par le pouvoir et au bout duquel, c'est le survivant qui gagne, je me dis, c'est très inquiétant pour ces adolescents. Et ça me rappelle une citation de Raïm Semproun que je donnais la semaine dernière à réplique. On se demande tout le temps quel monde on va laisser à nos enfants. La question, c'est de savoir à quels enfants nous allons laisser le monde. Et si, en effet, nos enfants se régalent, savourent Hunger Games, il y a toutes les raisons d'être inquiets. Non, peut-être j'ai tort, mais dites-moi, expliquez-moi.
Oui, mais l'effet produit par cette intrigue où 24 adolescents sont enfermés dans une arène virtuelle sous le regard du grand public pour s'entretuer jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un, pose aussi le problème dans toute sa complexité. D'abord parce qu'il reste un élément de honte, l'héroïne est vainqueur. N'est pas fière de sa victoire. Elle porte sa victoire comme un poids, comme un scrupule, comme quelque chose qui la dégoûte et qui lui fait horreur. Quelle est la vertu morale de cette honte et de ce dégoût? Je n'en sais rien. Il faudrait mesurer les perceptions du public, mais en tout cas, cet élément demeure. Et puis, il y a aussi, effectivement, dans ce film, cette idée que le spectacle de ces adolescents qui s'entretuent sert d'échappatoire, de dérive ou de catharsis pour éviter de voir l'ensemble de la population s'entretuer dans une concurrence pour la survie. Autrement dit, la fonction de catharsis, mettre sur la scène de théâtre, mettre sous le regard du monde ce qu'on voudrait éviter d'avoir à gérer dans la réalité, cette fonction finalement de purgation des passions de concurrence pour la survie, elle est interrogée dans ce film. Est-ce que ça fonctionne politiquement ou est-ce que ça fonctionne pas? La réponse finale, c'est que ça ne fonctionne pas, c'est qu'on doit échapper à ce genre de formatage de la réalité, mais la question, elle reste posée. Donc il n'y a pas de raison d'être entièrement pessimiste sur l'effet de ce genre de fiction.
Merci, je suis réconforté.
Mais si on s'intéresse à ces genres cinématographiques comme moi, c'est un film qui a vraiment brisé une sorte de tabou, puisqu'en général, on ne montrait pas des enfants, en fait, vraiment jeunes, à se faire massacrer. Je crois que là, c'est intéressant de voir que là, il y a un pas qui a été franchi, et qui était franchi en même temps dans des séries dont on parlait, comme The Walking Dead. Ensuite, tout cet ensemble de fiction, hein, des dystopies, on peut les appeler aussi, hein, c'est-à-dire ces univers absolument horribles, hein, comme les Matrix aussi, dans un genre précédent, sont malgré...
Dystopies là, sont des univers parallèles, c'est ça?
Oui, mais des univers qui présentent en fait un futur de l'humanité, qui là n'est pas un futur post-apocalyptique, puisque là, l'humanité est là, mais elle vit sous un régime absolument épouvantable, qui rappelle, évidemment, donc les dictatures. Si on regarde Hunger Games, même si je ne suis pas fanatique de cette série de films, puisque les films prennent aussi la forme des séries, oui. Maintenant. C'est un film qui suscite, donc chez les jeunes personnages auxquels s'identifie le public, et chez le spectateur, évidemment, une sorte de dégoût, de honte et de révolte par rapport à cet univers dans lequel on met les gens dans cette situation, avec une dimension aussi d'inégalité extrêmement forte dans un monde divisé. Il y a un autre film qui s'appelle Divergente aussi, dans le même style, où on montre un futur où chacun doit avoir son propre style, sa façon d'être. Et donc, ce qu'on met en évidence dans ces films, c'est toujours à travers évidemment des itinéraires singuliers, des personnages donc qui sont des femmes, hein, d'ailleurs, donc il y a quand même une dimension malgré tout extrêmement féministe aussi dans ces films, des personnages qui refusent quand même, qui essayent de sortir en fait, de détruire en fait d'une façon ou d'une autre cet ordre-là. Et évidemment, parfois en entrant dans ce jeu, mais malgré tout, c'est vraiment fait pour susciter justement des émotions qui vont être fortement négatives par rapport à la situation décrite.
Ah oui, c'est une version du féminisme qui me laisse un peu songeur. En effet, c'est Jennifer Lawrence qui gagne.
Toutes les versions sont bonnes. Hein.
Moi, j'en suis encore, peut-être, mais j'en suis encore à les femmes et les enfants d'avant. De certaines catastrophes et aux faiblesses obliges de la courtoisie ou de la galanterie traditionnelle. Mais c'est un tout autre débat. C'est un tout autre débat,
histoire.
En effet. C'est une autre histoire.
Histoire.
Merci beaucoup, Frédéric Lechterflack, Sandra Logier. Je rappelle, Frédéric Lechterflack, votre livre, Qui vivra, qui mourra, il est publié aux éditions Albin Michel. Les références bibliographiques sont sur le site répliquefranceculture.fr où l'émission est téléchargeable un an et réécoutable 1001 nuits. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre « Malaise dans la démocratie ». Mes invités seront Alain Caillé et Jean-Pierre Le Goff. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration d'Anne-Catherine Lechard et Didier Lagarde. À la technique aujourd'hui, Alain Joubert. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet. La gauche au pouvoir, des frondeurs toujours, avec Marc Lazare.